Le goût de M.
M, le magazine du Monde présente Le goût de M, un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
Qu'est-ce qu'avoir du goût ? Qui a bon goût ? Mauvais goût ? Et puis d'abord, comment se forme le goût ? Cette semaine, on part à la découverte du goût de Géraldine Pellas. Elle est actrice, on la découvre à la fin des années 80 chez Jacques Demy, Claude Pinoteau et surtout Maurice Pialat qui lui offre un rôle très marquant dans Le Garçu aux côtés de Gérard Depardieu. Depuis, sa filmographie revendique un goût éclectique. Elle entrelace films d'auteur, comédies plus grand public, récemment Tendre et saignant, réalisé par son compagnon Christopher Thompson, et également des séries. Elle est en ce moment à l'affiche d'OVNI, la série poétique et 70s d'Anthony Cordier qui entame sa saison 2 sur Canal+. Géraldine Pellas joue le rôle d'Élise Conti, astrophysicienne affranchie, dont la rationalité contraste avec la fantaisie de son ex-mari, l'ingénieur interprété par Melville Poupeau. On sait qu'elle est de Marseille, qu'elle danse hyper bien, elle doit ses tout débuts à un clip des Gypsy Kings, qu'elle est amatrice de l'OM et d'art contemporain. Et pour en savoir plus sur son goût, on a rendez-vous chez elle dans le 14e arrondissement de Paris. On se faufile tout au long d'une allée arborée, c'est par là, sur la gauche, on y est.
Oui ?
Oui, bonjour, c'est pour M Le Monde.
Merci. Bonjour.
Bonjour. Entrez.
Merci. Géraldine Pellas, on est chez vous. Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici ?
Oui, forcément, parce que c'est un espace dont j'ai à peu près décidé de chacun des détails qui s'y trouvent, oui. C'est un espace qui est à la fois rigoureux et foutraque. Donc ça aussi, ça me ressemble. C'est un espace avec beaucoup de fenêtres. Il y a de la lumière, même quand il n'y en a pas du tout. Aujourd'hui, il fait très gris et pourtant, on a de la lumière. C'est un espace qui peut accueillir des fêtes que je ne fais pas. Que je ne fais plus !
On s'est assis dans l'espace cuisine, près de la baie vitrée. En face de nous, des arbres. Sur notre gauche, au mur, une photo de Tokyo qu'elle affectionne. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
Je pense que je dirais la curiosité, parce que la curiosité, finalement, ça ouvre à tous les goûts. Donc, c'est assez simple, en fait, je me botte en touche. Ouais, il y a eu beaucoup de curiosité, ouais. Beaucoup d'appétit, en fait, de connaissances, de découvertes, beaucoup d'appétit, en fait. Et cet appétit, cette curiosité-là... Je pense qu'elle m'a été offerte par des personnes très différentes en plus, donc c'est exponentiel. C'est-à-dire que du côté de mon père, il y avait une famille d'origine plutôt modeste, avec une éducation très simple, sans la culture ait une énorme place, mais sans qu'elle soit rejetée non plus, mais bon, voilà. Et du côté de ma mère, c'était le directeur des Beaux-Arts de l'école de Marseille, avec une femme qui était très éduquée, qui avait eu son bac alors qu'elle était née en 1917, enfin, et dont je... Et des monstres aussi, parce que ça grouillait aussi de ce côté-là. Et je passe ma vie à essayer de faire des synthèses, ou au contraire, me dire que mon disque dur, en fait, n'est toujours pas saturé, donc je laisse rentrer, quoi.
Vous avez grandi à Marseille, vous le disiez, vos parents se sont rencontrés aux Beaux-Arts. Hein.
Oui.
Ça ressemblait à quoi, la maison ou l'appartement dans lequel vous avez grandi, à Marseille ?
Il y a eu trois lieux distincts. Le premier lieu, c'était une petite maison que mon grand-père paternel avait voulu acheter aux jeunes mariés, à Éour, qui est vraiment un petit village près de Marseille. Enfin, je crois même que c'est considéré encore Marseille, ça. Hein?
Ouais.
Je crois, ouais. Enfin, mais c'est genre un des lieux de Pagnol, en fait. Donc, voyez, c'est quand même un peu dans la Cambrousse, quoi, on va dire, en dessous du Gard-Laban. Et donc là, j'ai passé trois premières années de ma vie. Ensuite, on a grandi dans un appartement avenue du Prado. Donc, c'est une des avenues qui mène vers la mer. Donc là, c'était tout de suite beaucoup plus coquet, plus bourgeois. Et ensuite, mes parents ont fait construire une maison d'architecte au début des années 80 que j'ai habité entre mes 12 ans, je crois, et Bah, le moment où je suis partie, c'est-à-dire 19 ans.
Ça ressemblait à quoi, à l'intérieur, cette maison, justement, dites-moi, une maison d'architecte, on imagine, du coup, qu'ils apportaient ça avait une importance pour l'espace, l'organisation de l'espace, comment c'était organisé, cette maison?
Oui, alors, mon père a développé un goût, assez rapidement, mais tardivement aussi, pour l'art, pour l'architecture, pour le design.
Oui, parce que votre père, au départ, c'est ça, il était d'une famille de menuisiers, il avait repris aussi
cette entreprise. Exactement.
Et puis, il a ouvert une galerie.
Une galerie qui, au départ, était une association régionale pour la création artistique, ça s'appelait l'ARCA, et donc, oui, il promeuvait des artistes marseillais et de la région, notamment, dont certains sont devenus très célèbres par la suite, comme Gérard Tracandi, par exemple. Et donc, oui, effectivement, plus tard, il y a eu Pierre Huyghe, Jeff Hall, Dan Graham, des très grands artistes, Daniel Buren. Mais cette maison, donc, a été une sorte d'écrin pour accueillir ce moment où il est devenu un homme qui comptait sur la scène de l'art contemporain. Ouais. Et c'était juste. Voilà, il y avait quelque chose pour moi qui s'équilibrait et j'ai aimé grandir dans cet écrin dont certains pourraient dire qu'il est peut-être un peu froid ou qui était quand même basé beaucoup sur du béton et du bois, donc un mélange quand même qui fonctionne bien. Et voilà, on était à Marseille, donc c'est quand même une ville très particulière où ça a beau être la deuxième ville de France et une grosse mégalopole, c'est aussi, il y a aussi un petit côté cloche-merle, quoi. Et puis c'est une ville qui est près de la mer, donc il y a un côté villégiature qui reste quand même toujours présent, même si on travaille comme des fous, quoi.
Donc votre père, donc lui, il avait cette passion pour l'art, comme ça, qui s'est révélée dans sa vie. Mm-hmm. Votre mère, vous diriez quoi de ses goûts?
Ma mère, en fait, a des goûts très contrastés. Je dirais, parce qu'elle, c'est une femme qui, a priori, peut avoir l'air très délicate et très douce, et qui a fait de cette maison qui pouvait être un peu froide, quelque chose de très doux, justement, et de très accueillant. Bah, c'est sa nature, elle est comme ça. Mais en même temps, elle a un espace de rêverie qui est extrêmement développé chez elle. Bah, d'ailleurs, j'aurais pu vous répondre ça aussi sur le goût de l'enfance, j'aurais pu vous répondre aussi la fiction, parce que la fiction, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi, parce que ça va avec la curiosité aussi, très bien. Mais ma mère, ouais, est une grande rêveuse. Son espace principal, c'est à l'intérieur d'elle-même, je pense. Elle fait partie de ces gens qui peuvent être seuls sans aucun problème, parce qu'en fait, elle a un imaginaire tellement développé que je trouve aussi assez rassurant, parce que, par exemple, moi, je vis loin d'elle et je la vois assez peu. Elle me laisse toujours sentir qu'au fond, elle se débrouille très bien, parce que elle se suffit elle-même. Et ses goûts eux-mêmes, ben, en dehors de ça, je crois qu'elle est très ascète. La less is more des deux, je crois que c'était surtout elle, en fait.
Ouais. Il y a une autre figure qui est très importante, vous l'évoquiez brièvement, dans votre enfance et du coup dans la constitution de votre goût aussi, c'est votre grand-mère maternelle. Vous disiez, cette femme, alors c'est du racien tout de suite, quoi, qui est née en Indochine, qui avait une passion pour...
Je pense exactement, enfin, elle était à l'école
avec
la
même génération.
Oui, c'est ça.
Et elle, vous dites que vous l'avez aimée follement, enfin, qu'elle vous l'a bien rendue, et que c'était une femme qui a été très importante pour vous?
La plus grande somme des choses qui me sont arrivées, qui m'ont été apportées quand j'étais enfant, j'ai l'impression que ça vient d'elle. Alors c'est peut-être un peu excluant pour les autres, et notamment pour ma mère, mais non, au fond, ma mère m'a confiée à ma grand-mère. Elle m'a mise entre ses mains à un moment très particulier de ma vie et de la vie de tout le monde. C'est le moment où j'allais avoir une petite sœur. Et je pense que c'est un moment qui peut être un moment de détresse pour beaucoup d'enfants. Et à ce moment-là, la personne sur qui j'ai pu compter et qui a accueilli cette détresse, bon, qui était somme toute un truc que j'ai réglé depuis, mais sur le moment, en tout cas, je pense que j'avais besoin d'une figure maternelle qui ne me trahissait pas, puisque ma mère était en train de me trahir en ayant un autre enfant, et qui était là pour moi. C'est-à-dire que tout à coup, elle a incarné cette espèce de mère idéale, celle qui fait que elle est tout le temps à disposition et qu'elle vous offre à la fois un réconfort matériel, mais aussi avec tes odeurs, les matières, les couleurs, le goût, et puis beaucoup de lectures. Enfin, elle a nourri mon appétit, elle l'a alimenté, à le faire grossir, grandir. Et effectivement, cette cuisine qu'elle ramenait avec elle d'Indochine, de sa petite enfance, qu'elle était un peu la seule à maîtriser dans la famille. J'ai une tante qui sait encore faire le porc sucré. Chaque fois, elle me dit, t'as qu'à venir chez moi, je vais te le faire. Mais il faudrait quand même que je le fasse à un moment donné. Ouais, c'était mes plats préférés, c'était tout ce que j'aimais le plus.
Il y avait un plaisir de manger dans votre famille? C'était important?
Oui, j'ai le souvenir du plaisir de la cuisine, tenu par ma grand-mère, et qui avait ces fameuses phrases qu'on a plus ou moins tous entendues dans nos familles. Mais tu finis pas? Mais t'en veux pas encore un petit peu? Et effectivement, elle était toujours assez blessée si on terminait pas.
M, le magazine du monde présente le goût de M.
Géraldine Pellas, on est où là?
Là, on est dans mon salon, qui est un espace ouvert sur la cuisine aussi, mais légèrement contrarié par la présence d'une bibliothèque qui laisse passer, et d'un escalier qui laisse passer la lumière, le jour, parce que ça, c'est important pour moi.
Alors, il ressemble à quoi, ce salon?
Moi, j'admire toujours beaucoup les gens qui savent utiliser les couleurs, mais visiblement, je ne sais pas. Donc, mon salon est tout blanc, avec du bois blond, qui a défini, en fait, le style, je crois, de notre habitation. Et ça donne un petit côté à la fois finlandais, japonais, ouais.
Qu'est-ce que c'est, ça?
Ah, ça, c'est marrant.
C'est quoi?
Ça, c'est un traîneau. Un jour, on était en voiture et sur l'avenue d'Enfer Rochereau, il y avait une brocante. Et on s'est arrêté en plein milieu de la circulation. On s'est jeté sur ce traîneau. Voilà, c'est mon rosebud. Je le mets chaque année sous le sapin à Noël. J'ai commencé la danse à 4 ans. C'était probablement pas exclusivement la danse. C'était un mélange de ce rendez-vous, cette professeure qui m'impressionnait, le bâton, la discipline, le fait que toutes les petites filles étaient habillées pareil, avec ce petit juste corps rose, avec un petit tutu tout petit, comme ça, c'était aussi quelque chose d'esthétique. Je trouvais ça beau. Puis il y avait la musique quand même, c'était pas rien. Et d'ailleurs, je crois que c'était ma première année, donc quand j'avais 4 ans. À la fin de l'année, il y avait eu un spectacle à l'Opéra de Marseille, parce qu'on faisait nos spectacles de fin d'année à l'Opéra de Marseille, c'était chic. Et j'avais décidé d'arrêter la danse juste après. Justement, un petit peu trop contrainte par l'autorité de ce professeur qui me faisait peur. Et c'est en entendant la musique du ballet que j'ai pleuré, que je me suis dit qu'en fait, je voulais être danseuse. C'était même plus genre arrêter, commencer, c'est que je voulais être danseuse.
Vous aviez quel âge?
4 ans et demi.
Ah ouais, hyper hyper jeune comme
ouais,
ça.
5 ans, ouais. Ouais. Mais là c'était très très fort. Je me souviens où j'étais. J'étais dans la voiture. C'était à la radio. J'ai éclaté en sanglots. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, c'est ça que je veux faire.
Ouais. Donc ça c'est un idéal que vous avez poursuivi assez longtemps.
Ouais.
À côté de ça, vous le disiez, il y avait un goût d'apprendre très fort chez vous. Enfin, tout, vous me parliez de la curiosité.
Oui, ma deuxième
début.
Passion c'était l'école en fait.
Ouais, c'est ça.
Bah oui,
vous adoriez y aller?
J'adorais y aller, j'ai adoré y aller tout de suite. En fait, le premier jour à la maternelle, j'ai adoré y aller. J'étais contente de voir des enfants, je crois. J'étais contente qu'on soit ensemble. Je vivais dans cette petite maison à l'autre bout de Marseille, juste avec ma mère pendant 3 ans. En fait, j'ai croisé que les gens chez qui elle m'amenait, mes grands-parents et tout ça. Je connaissais pas beaucoup d'enfants, quoi. J'étais trop contente. Je trouvais ça trop chouette, la maîtresse, tout ça. Je trouvais ça trop bien. Et j'ai appris au fur et à mesure des années que c'était une joie que je devais tout doucement taire. Sans quoi je n'aurais peut-être pas d'amis.
Vous parliez du goût de la fiction, enfin, qui avait été important dans votre enfance. Justement, il s'est matérialisé dans quoi au départ? Ça a été dans la littérature ou ça a été des films, le cinéma? C'était quoi?
Oui, je pense d'abord la littérature, peut-être quasiment en même temps que des films à la télévision d'abord. Je me souviens de cette... Il y avait un endroit dans une maison de vacances de mes grands-parents maternels. Il y avait une bibliothèque, c'est-à-dire que les murs entiers étaient couverts de livres dans lesquels il y avait d'ailleurs des vieilles bandes dessinées d'époque, donc des vieux Tintins d'origine, ouais, tout ça. Ouais. J'avais souvent la chance d'avoir le droit de les prendre parce que j'étais réputée pour bien les traiter. Donc j'ai... Voilà, c'était vraiment une entre... C'est vraiment, je crois que c'est... Quand je pense vraiment à mon enfance, je pense à cette pièce comme un endroit... une sorte de pays de cocagne, quoi. Et il y avait aussi la télé dans cette pièce. Donc j'y ai lu, j'ai regardé des films, j'ai vu des films avec mon grand-père. Je me souviens des après-midi d'enfance où je regardais des westerns beaucoup, parce que j'aimais beaucoup ça aussi. Et je lisais, puis je m'endormais. Et puis il y avait souvent des mouches qui venaient nous embêter, je me souviens de ça. De bien aimer que les mouches se posent sur mes jambes, sauf quand je faisais la sieste.
Puis il y a eu quelques films qui ont été marquants. Ouais. Vous avez vu Le Dernier Métro avec votre mère dans un cinéma à Marseille. Mm-hmm. Ça vous a marqué beaucoup?
Ça, j'étais un petit peu plus grande, mais c'est vrai, ouais, que c'est le premier film d'adulte, je pense, si je peux dire, que je suis allée voir au cinéma. Et oui, j'ai souvenir de quelque chose de torride, en fait. Et j'étais très reconnaissante à ma mère, en fait, de me faire assez confiance pour m'amener voir ce film. Alors évidemment, il faut imaginer que la consommation du cinéma, ça n'avait absolument rien à voir avec maintenant. Donc même la quantité, on va dire, de films que je voyais à l'époque, était tellement infime par rapport à ce que les jeunes gens aujourd'hui peuvent, ce à quoi ils ont accès entre les plateformes et puis même à Paris, parce que moi j'étais à Marseille, il faut pas oublier. Donc il y avait des émissions, il y avait la dernière séance d'Eddie Mitchell, il y avait les programmes sur FR3 à l'époque, le ciné-club, le cinéma de minuit. Et en fait, j'étais pas du tout dans une famille qui m'élevait autour de ça, mais ils ont tous toujours favorisé le fait que je puisse avoir envie de réserver des espaces pour ça. Par exemple, j'avais beau avoir 6 ou 7 ans, ou 7 ou 8 ans, mes parents m'autorisaient à regarder un film très tard si j'avais envie, le mardi soir en général, parce que j'avais pas classe le lendemain, donc évidemment pas le cinéma du dimanche soir, mais... Et je pouvais très vite instaurer des moments comme ça en famille qu'on allait passer devant tel film. Je me souviens de Noël, par exemple, où il y avait toujours des rediffusions de Autant en emporte le vent ou Magicien d'Oz. Quelquefois, il y avait Podane, ça c'était la fête, parce que Podane, on ne le trouvait pas, on ne le voyait quasiment jamais. Donc, quand il y avait Podane, je pouvais tout arrêter, même ne pas fêter Noël, quoi. C'était genre... Voilà, ça j'ai fait ça beaucoup, j'ai fait ça jusqu'à maintenant, en fait, je continue.
Ouais.
Je mets des gens devant des films, et je leur dis « Regarde
!» Ouais, puis vous avez vu un Nos Amours aussi. Ça, ouais, ça vous a donné envie de jouer, en fait.
J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai découvert avec Piala qu'il y avait non seulement l'image, mais le son. Parce qu'il y avait un son très particulier dans ses films. En fait, il a toujours essayé de garder un son direct. Donc, il y a une forme de brutalité, du coup, dans ce son. Mais aussi le sentiment, du coup, que le spectateur est invité à partager ce moment-là, à être dans la même pièce ou dans le même lieu que les protagonistes. Et puis, il y avait cette violence, cette brutalité, la violence à l'écran des personnages, mais la brutalité avec laquelle je pressentais que Piala pouvait tourner et pouvait mettre son équipe. Et en fait, ça m'émeuvait énormément. Ça me rebutait pas du tout, au contraire. Parce que Sandrine Bonner se prend quand même 2-3 gifles dans le film. Mais je trouvais qu'il faisait un portrait d'une famille qui ressemble pas du tout à la mienne, mais qui m'était pas étrangère, en fait. Et je me demandais pourquoi. Et ça m'intriguait, ça m'attirait. Je trouvais qu'en tout cas, il y avait une forme de justesse qui m'aspirait. Et je me suis dit, c'est vrai, oui, dans une sorte de rêverie. Un jour, j'aimerais jouer dans un film de Piala si j'étais actrice, mais enfin, j'étais très très loin d'imaginer que je...
Ça arriverait, ouais. Donc à 15 ans, vous partez vivre à Toulouse pour devenir danseuse, en fait.
Voilà,
c'est ça le rêve, en fait, l'idéal que vous poursuivez à ce moment-là.
Ouais,
vous avez quel souvenir? Parce que 15 ans, c'est jeune. C'est une autonomie, mais un peu forcée, enfin, qu'on montre, quoi. C'est plus avoir envie de montrer son autonomie que l'être vraiment. Enfin, c'était difficile.
Oui, et puis en plus, l'accueil à Toulouse, c'était une école vraiment qui formait un peu à la russe, quoi. Donc, c'était vraiment très, très, très poussé, très, très exigeant. On avait 8 heures de cours par jour, hein, de danse, hein. C'était un peu genre si on avait un ongle incarné, tant pis, on montait sur les pointes. Ouais, enfin, ouais. Comme les sportifs de haut niveau, voilà, ouais, on se blesse, mais on continue, on fait attention que la blessure ne s'aggrave pas trop. Mais si c'est pas horrible, en gros, on continue, quoi. J'ai dansé avec 42 fièvres, des frissons. Mais au fond, là encore, je ne me plains pas parce qu'au fond, ça me correspond. J'ai cherché, d'une certaine façon, la cruauté que cette discipline m'a infligée et les autres filles et garçons qui étaient avec moi aussi. Oui, ouais. On avait ça en commun.
Il y a un goût du contrôle aussi? ou pas?
Oui, du contrôle, et en même temps, on était aussi les jouets des décisions et du regard que les professeurs portaient sur nous. Hein. Les favoris, les favorites, c'est où tout à coup, on avait la chance de pouvoir grimper dans le top 3 de la semaine. Et puis, c'est tout à coup, justement, j'étais rentrée à Marseille chez moi, parce que, en fait, j'avais vraiment besoin de voir mes parents, et que j'avais pris un demi-kilo le week-end et qu'on pesait à la rentrée. On s'en prenait plein la gueule, et c'était la même chose toute la semaine. Enfin... Et en même temps, encore une fois, ça va, ça ouais. allait quoi. Ouais. J'ai juste appris à grandir peut-être un peu plus vite que d'autres gens, ou pas forcément au même âge, mais je suis reconnaissante à cette année-là, je suis reconnaissante à ces professeurs-là qui ont été les premières à me dire « tu devrais faire du cinéma ». J'ai pris ça très mal parce que j'avais trouvé ça vexant. Sous-entendu, tu ne seras pas, t'es pas assez une bonne danseuse, mais... Et effectivement, je n'étais pas une assez bonne danseuse. Moi, je voulais être Sylvie Guillem ou rien du tout, quoi. Ouais, ouais. Vraiment, c'était... Je voulais avoir des jambes de 1m10, les lever jusqu'à mon oreille et tout ça avec une facilité désarmante, parce qu'en fait, ce que j'aime le moins dans lart, c'est quand on voit le travail et l'effort. Voilà. C'est valable pour le cinéma aussi pour moi. Ouais. C'est valable pour la littérature. Voilà, je peux aimer les exercices de style, mais j'aime pas quand on sent que on a trop voulu, quoi.
Ouais, et alors bon, bah justement, le chemin vers cet idéal, il va être contrarié définitivement. Vous vous blessez. En fait, vous rendez compte que vous allez pas devenir Sylvie Guillem. Et puis bon, la vie fait bien les choses. Il y a un ami à vous, je crois, qui montre une photo de vous à un metteur en scène. Vous vous retrouvez dans le clip des Gypsy Kings, que j'ai regardé hier, donc mon Bolet Hilo, 86 ou 87. Vous avez une robe verte, des créoles, vous dansez, je sais pas si c'est pieds nus, il y a Farid Chopel aussi.
La petite ballerine,
ouais, voilà. Et il y a Farid Chopel aussi, voilà. Enfin, ça, c'est le climax du clip, où vous dansez tous les deux. Et ensuite, alors, c'est drôle, cette expérience-là, elle va complètement, enfin, ça va vous mettre sur la voie du cinéma, quoi. Ensuite, vous allez commencer à passer des castings et vous allez tourner très, très vite.
Ben oui, en fait, c'était ça qui était vraiment stupéfiant. C'est que Stéphane Clavier, qui était le réalisateur du clip, à la fin de ces 3 jours de tournage où, bah, vous avez vu, hein, je fais que tournicoter autour de Farid Chopel, en gros, et rien de plus, m'a dit, mais tu devrais faire du cinéma, je vais te présenter une ou deux personnes. Et j'ai rencontré une directrice de casting qui s'appelle Mamad, et mon agent, Catherine Ménial, qui a été mon agent jusqu'à sa mort pendant 17 ans. Et j'ai tourné mon premier téléfilm 3 mois après, puis le deuxième, puis un troisième, et j'ai fait mon premier long métrage 1 an après, 2 ans après, oui, c'est ça, et pour lequel j'ai eu un César. En gros, c'était ça.
Oui, c'est ça, le film de Claude Pinoteau en 91, là, la neige et le feu, ouais. Où effectivement vous avez le César du meilleur espoir féminin. Et puis en fait, ça démarre très vite. Donc pour vous, effectivement, il y a ce César, vous tournez avec Benex, IP5, et puis le miracle arrive très vite, c'est-à-dire ce que vous souhaitiez depuis secrètement. Vous tournez avec Maurice Pialat, Le Garçu, c'est son dernier film. Vous avez quoi, 23 ans, je crois, à peu près. Ouais. C'est un film très touchant, hein, enfin, une espèce d'autoportrait de Pialat. Enfin, voilà, vous jouez la femme de Gérard, joué par Gérard Depardieu, qui s'appelle Sophie. Et en fait, cette expérience, elle est incroyable pour vous.
Alors, elle est incroyable à tout niveau, hein, parce que vraiment, je me sens absolument pas habilitée à la vivre. À l'époque, il m'avait d'abord proposé un autre rôle, et ouais. C'est une semaine avant le début du tournage qu'il m'a dit, mais en fait, tu n'as plus le rôle. Donc, il y avait une façon d'organiser les bonnes nouvelles très particulières. D'abord en passant par la déception, et ensuite, je te donne l'autre.
Le rôle principal.
Donc le rôle principal, le rôle de la femme de Gérard. Donc Gérard Depardieu, hein, dont j'ai été à nouveau la femme 20 ans après dans la série Marseille pour Netflix. Et donc Gérard, qui a l'âge de mon père, hein, quand même. Maurice Pialat et Sylvie Pialat, d'ailleurs, me confient leur enfant qui devient le mien pour le temps du tournage. Je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas en gros ce que c'est qu'un enfant, hein, réellement, à part pour jouer avec. Et d'ailleurs, je me souviens, ça fait partie des premiers trucs que Sylvie Pialat me disait à l'époque, c'est... Non, mais une mère ne joue pas à la peluche avec son fils. C'est pas ça qui se passe. Donc, ok, je me dis qu'il faut que je réorganise aussi ma façon d'être parente d'adoption. C'est vraiment grâce à Sylvie que je suis dans ce film. C'est elle qui a dit à Maurice, mais regarde, cette fille, il y a quelque chose. Ou de la ressemblance, déjà, il y avait un truc physique. Je crois qu'il les a d'abord amusés. Et pendant tout le film, j'ai nécessité d'essayer de comprendre ce que je devais faire, de faire bien, d'essayer d'esquiver aussi éventuellement les éclaboussures s'il y en avait. Et pendant tout le film, c'était dur parce que Maurice était un homme possiblement tendu et inquiet et douloureux, mais jamais, 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 il n'a levé la voix sur moi.
Oui, quand vous parlez de lui, vous en parlez un peu comme de Marseille. Enfin, vous parlez de lui comme d'une tempête.
Mais
vous dites que vous l'avez jamais craint. Et ça, ça change tout, je pense, dans ce genre de rapport-là.
Je l'ai pas craint, absolument. Je l'ai pas regardé comme le monstre que beaucoup voyaient chez lui. En fait, tout ça était parti d'un crush que j'ai eu pour lui quand je l'ai vu lever le poing quand il a reçu sa palme d'or. Je me suis dit, mais cet homme qui arrive à ce stade de sa carrière, ou que probablement il arrivait depuis longtemps, même s'il n'osait pas forcément le formuler, la palme d'or pour son film.
Sous le soleil de Satan.
Sous le soleil de Satan. Et les seules réactions auxquelles il prête attention, ce sont les quelques sifflets qui s'élèvent dans la salle. Et ça, ça m'a provoqué un sentiment d'amour, vraiment, qui n'est jamais parti. Et j'avais l'impression de le comprendre, c'est vrai. Et je pense qu'il le savait. Je pense que, comme si je l'avais démasqué d'une certaine façon.
Vous parlez aussi beaucoup de son regard. C'est un regard qui a été très important. Bon, déjà, il vous a beaucoup regardé comme actrice, comme femme, enfin comme une bonne actrice.
Il m'a beaucoup aimé.
Il vous a beaucoup aimé. C'est très important. Et ce regard-là, vous dites en même temps, c'était. Vous en parlez même comme d'une emprise. C'est un regard qui a été. Ça a été long de s'en défaire de ce regard-là.
Oui, parce que c'était aussi mon idéal de cinéma, donc. Comme je vous ai raconté cette histoire où je n'ai jamais voulu être actrice, mais j'ai pensé à aller dans un de ses films. Tout à coup, je le suis dans un de ses films. Bah, en fait, qu'est-ce que j'ai projeté après de ma vie où je ne suis finalement pas devenue danseuse et où j'ai déjà tourné avec Maurice Pialla? Il y avait forcément une pause à faire, des questions à se poser. Pendant un an et demi, effectivement, j'ai pas tourné, j'ai pas vraiment considéré les projets qu'on m'a offerts. Et je pense que tout à coup, je me suis dit, parce que il y a eu le scénario de Philippe Harel qui est arrivé, Les Randonneurs,
ouais.
Et là pour le coup, qui était tellement éloigné du Garçu que c'était
plus comique aussi. On vous découvrait dans un autre registre.
C'était une comédie. Enfin, ça n'avait rien à voir, à part que c'était un film d'auteur aussi, mais c'était quand même une comédie. Et là, je me suis dit, il y a une bande de gens qui me plaît. C'est une bonne manière d'être accompagnée dans le après, en fait, le après Maurice. Et on va voir. Et on va voir ce qui se passe. Et je pense que c'était une bonne décision pour moi. Je pense pas qu'il y avait une emprise, il y avait simplement... Je savais que le jour où je tournerais avec quelqu'un d'autre, nos rapports ne seraient plus les mêmes, donc... Mais j'ai pris la décision de le faire quand même. Donc cette emprise, elle a eu une fin. Elle était là quand je la tolérais, en fait. Ça n'a pas été quelque chose qui m'a été imposé.
Ensuite, vous avez beaucoup tourné, vous avez même fait un petit aller-retour à Hollywood, ça c'était drôle avec...
Vous avez raison en disant aller-retour.
Oui. Marlon Brando, Johnny Depp, Faye Dunaway quand même, enfin c'est quoi, Don Juan de Marco, c'est
ouais,
ça,
ouais.
C'est quand même fou comme aventure.
Ouais.
Alors vous avez tourné très régulièrement, à la fois dans des films d'auteurs, hein, très auteurs, et aussi dans des comédies ou des films, comme on dit, qualité française, donc des films populaires. Et je lisais un portrait de vous dans Libé d'il y a une dizaine d'années, et vous disiez, je tourne pas assez, à mon regret, et en même temps c'est un peu ma faute. Enfin, il y a eu, comme votre carrière elle est longue, hein, il y a des films tous les ans, et en même temps, vous n'avez pas eu de franc succès pendant un temps, et vous disiez c'est aussi un peu ma faute, c'est-à-dire peut-être qu'il y a quelque chose chez moi de trop réservé ou de.
Je crois que c'est pas ça en fait. Je pense que c'est plutôt la multiplicité de mes désirs, enfin du type de cinéma. J'aime des choses très très différentes en réalité. Donc oui, j'aurais pu ne tourner qu'avec Arnaud Desplechin, j'aurais pu ne tourner qu'avec Olivia Assayas. J'aurais beaucoup aimé en fait tourner avec eux. D'ailleurs, j'ai failli plusieurs fois avec Assayas. Mais il m'aurait manqué quelque chose en réalité.
Ouais. C'est que
comme quand je tournais avec Pialla, en fait, j'ai envie de faire Les Randonneurs après. J'ai compris ça à ce moment-là. Donc j'ai aimé des choses très différentes. Mais surtout, ce que j'aime, ce sont les cinéastes. Donc du coup, j'ai accepté des rôles. Là, il y avait le film de Benex, justement, IP5, qui repassait à la télé. J'ai un tout petit rôle dedans, en fait. C'est un second rôle. Et je me dis, dès le départ, j'avais fait deux films. Et déjà, j'accepte un second rôle parce qu'en fait, j'avais envie de tourner avec Benex. Et en fait, j'ai passé mon temps à faire ça. J'ai passé mon temps à tourner avec des cinéastes avec qui j'ai envie de travailler, même s'ils me proposaient une toute petite chose. Parce que c'est ça mon plaisir, c'est ça que j'aime faire. Donc du coup, quand je dis c'est peut-être un peu ma faute, c'est peut-être parce que j'ai pas revendiqué assez fort le fait d'avoir envie de faire ce métier, le fait d'avoir envie d'être actrice. Mais ça, je pense que c'est en train de changer.
D'être au premier plan, à un moment donné, c'est ça aussi.
Et c'est ce qu'on sent aussi dans les derniers films dans lesquels on vous a vu. Il y a beaucoup d'amusement qui transparaît aussi. C'est la nature des rôles, mais c'est aussi peut-être vous. Hein, je sais pas, dans OVNI, il y a beaucoup de jubilation. Dans Tendre et saignant, là, qui est réalisé par Christopher Thompson, votre compagnon, il y a aussi beaucoup de jubilation. Enfin...
Alors, Tendre et saignant, ça a été écrit par mon compagnon. Donc, il n'a pas écrit pour moi, c'est vrai, mais il l'a écrit quand même en parlant d'une femme qui connaissait plus ou moins, c'est potentiellement j'ai pu servir de modèle à certains égards pour le personnage. Et quand finalement le film m'a été attribué joyeusement, moi j'ai attendu toute ma vie ce rôle-là, mais on me l'a pas proposé. Alors j'ai fait un film que j'aimais énormément qui s'appelait Didine, qui est peut-être la seule comédie romantique que j'ai
joué. Tout à fait. Ouais. En 2008, oui.
Mmh. Voilà, dans laquelle d'ailleurs Christopher était joué mon amoureux. J'aurais adoré. OVNI, c'est arrivé là, mais pareil, je l'aurais fait tout de suite si on l'avait proposé plus tôt. Mais c'est comme ça, ça n'est pas arrivé plus tôt. Les cinéastes ont beaucoup imaginé que j'avais une forme de discrétion qui était proche de l'effacement. Là où je suis responsable, c'est que, en fait, ça m'était égal la façon dont on pouvait me percevoir. Je me souviens, j'avais rencontré Pascal Ferrand qui m'avait dit un truc qui m'avait beaucoup ému, qui m'avait dit pour moi tu es comme une page blanche. C'était à la fois un compliment parce que finalement une actrice, un acteur doit pouvoir laisser au metteur en scène tout l'espace de s'exprimer et de fantasmer. Donc ça me plaisait. Et en même temps, je me disais quand même qu'il y avait quelque chose de mon caractère qui n'était pas apparu. Et c'est vrai que j'ai oscillé entre les deux envies, que ça apparaisse et que ça n'apparaisse pas. J'ai trouvé ça plus joyeux, je crois, de laisser les gens imaginer des choses. Et peut-être que là, il y a un petit peu de lassitude maintenant et que j'ai envie qu'on sache mieux qui je suis.
M. Le goût de M.
Donc là, voilà, on est au sous-sol. Et donc, ce couloir mène aux toilettes.
D'accord, donc on y va.
Et donc, je vous allume. Donc, les toilettes sont peintes en gris anthracite du sol au plafond, pratiquement, qui ne portent pas le sol. Et il y a un mur qui a été fabriqué pour nous, à notre demande, par un autre artiste qui travaille avec mon père, qui s'appelle Olivier Miyagou, qui sont des galets qu'il a peints un par un. Et selon nos demandes, nos fascinations, nos amours.
David Bowie, là.
Il y a un petit Bowie à la Dinsane. Mais il y a plein de choses. Il y a aussi des Totoro. Il y a aussi Mr. T. Ça, je suis pas sûre que ça m'a. Il y a Ravi Jacob. Il y a aussi des mots. Parce qu'en fait, lui, il travaille beaucoup sur le surf aussi, les bikers. Donc, il y a aussi son influence à lui. Là, il y a des Biarini.
Donc c'est un peu vos goûts et celui de
voilà.
Mon compagnon.
Voilà, mélanger. Exactement.
Géraldine Pellas, on est chez vous. Quelle relation vous entretenez avec les objets qui vous entourent? C'est important pour vous?
De manière générale, je suis un peu trop attachée aux choses en général. Ça peut être... des vêtements, ça peut être des choses qui ont appartenu à d'autres. Mais la chose principale qui réveille chez moi des émotions fortes, ce sont les odeurs. Donc par exemple, j'ai une quantité de flacons de parfum dans ma salle de bain qui sont liés à des gens divers d'ailleurs. Et je me fais des shoots en fait d'odeurs qui me rappellent telle ou telle époque. Ouais, je pense que l'odorat est mon sens le plus développé.
Vous parliez des vêtements. C'est important pour vous, les vêtements?
Alors, c'est à la fois important et sans aucune importance. C'est assez marrant. C'est-à-dire que je m'habille tous les jours pareil, à peu près. J'ai le même jean noir, des boots noirs que j'ai récupérés sur un tournage il y a 3 ans. Je les mets, je crois, tous les jours. Ce t-shirt, je pense que aussi, dès que je le lave, je le remets. Je vous rassure, quand même, je précise.
Je suis pas inquiète.
Je lave mes vêtements au milieu. Ouais, au quotidien, j'aime l'uniforme. C'est comme, je sais pas, c'est comme une sorte d'armure, mais souple, on va dire.
Ouais.
Qui ne dit rien ni de mon genre, ni de mon non-genre, ni, voilà. Ça me convient très, très bien.
Ouais, vous parliez souvent que vous poursuiviez, vous disiez, mais pas forcément avec succès, une silhouette androgyne, que c'est ça qui vous plaisait, en fait.
Oui, bah oui, pour moi, c'est complètement raté, hein, en fait, parce que j'ai des formes.
mais c'est ce que vous trouviez beau.
Ce que j'aime, c'est le trouble qui peut naître de la confusion du genre. Ça peut prendre des visages très divers dans la littérature, comme dans le cinéma ou dans la musique. Une des choses qui m'émeut le plus depuis que je suis enfant, vraiment. Enfin, moi, mon premier choc émotionnel, vraiment artistique, c'était Bowie. Parce qu'en fait, en réalité, je ne savais pas ce que je voyais. Je n'ai pas cherché à identifier ni au masculin, ni au féminin. Ça m'était égal. J'ai très vite su que c'était un homme. Mais toujours parce que j'ai eu plus de héros masculins dans l'enfance que d'héroïnes. Les héroïnes que j'avais étaient bien, au caractère bien trempé en général. Mais aussi, je me souviens, oui, de ce personnage de Osamu Tezuka, qui est le père de la BD japonaise. C'était en dessin animé à l'époque, je voyais, qui s'appelait Princesse Saphir et qui devait se travestir en garçon pour pouvoir régner. Donc, c'est une thématique qui m'a toujours obsédée. Voilà, toujours. Je pense que tout à l'heure, on parlait donc au tout début de la curiosité et de l'imaginaire, de la fiction. Dans cet imaginaire et dans cette fiction, on peut être tout, donc c'est très commode. Quand je suis actrice aussi, je peux être tout. Bon, finalement, on m'a jamais proposé de rôle de garçon, mais très régulièrement, je demande à mes potes, aux gens que je rencontre, je dis, mais ça, je veux bien le faire. Mais non, c'est pour un mec, je m'en fous, en fait. Enfin, à la fois, je comprends très bien hein, qu'on puisse destiner des choses, heureusement, à des genres particuliers, etc. Et en même temps, si quelqu'un lève le doigt et dit, mais moi, je veux bien faire autrement. Je vois pas pourquoi on m'en priverait, en fait.
Vous parliez d'une tenue fonctionnelle, pas spécialement genrée, enfin, en tout cas, qui rappelle pas forcément les codes de la féminité traditionnelle. Vous dites, je me maquille pas souvent, enfin, dans la vie de tous les jours, en fait. Assez peu, en fait. Vous viviez ça comme des contraintes, tous ces codes?
Mais non, en plus, c'est ça qui est dingue, non. J'ai beaucoup de plaisir à me préparer pour une soirée. Et d'ailleurs, mes amis, je pense que je suis tout le temps juchée sur des talons. Hein. Je sors rarement en basket le soir. Comme s'il y avait une espèce de moment où on se déguise. Et que c'était ce moment-là, et que c'était joyeux. Je le fais avec beaucoup de plaisir. Et je me maquille. Je ne sors jamais démaquillée le soir, en revanche. Alors, est-ce que je me maquille en fille? Ça, j'en sais rien. Mais bon, on s'en fout. Le moment de Noël, par exemple, c'est un moment très important.
Ah ouais? Ah
ben là, je suis carrément, je pense que je me déguise à chaque fois.
Mais vous avez eu, vous avez toujours, d'ailleurs, je crois, un intérêt pour la mode, ça vous a intéressé, enfin, oui. Et des créateurs tels que Rei Kawakubo, C'est comme des garçons, Margiela, fait des choses assez minimales, hein, quand même, enfin, ou radicales. Aujourd'hui, ça vous intéresse toujours, c'est un champ que vous suivez?
J'étais très grande consommatrice de mode dans les années 90, avec Helmut Lang, Anne de Mellemeester, Margiela, effectivement. Et puis, ça m'a passé un peu. J'ai continué de m'intéresser aux défilés et d'être fidèle à certaines maisons chez qui je pouvais m'habiller facilement et avec qui j'entretenais des bonnes relations et dont j'aimais le travail, bien sûr. Mais j'ai cessé d'acheter. Ouais, pour des choses plus simples, plus quotidiennes. T-shirt et jeans, en gros. Et puis, voilà, on n'en parle plus, quoi.
Si je vous demande, quel type de goût vous plaise, d'une manière plus sensible? Je sais que vous aimez beaucoup la cuisine. Qu'est-ce qui vous plaît?
J'aime plutôt le salé. J'aime les goûts prononcés. J'aime beaucoup les céphalopodes. J'aime des trucs un peu chelous.
Ah ouais?
J'aime les abats. J'aime bien mettre la main dans le poulet et aller chercher ce qu'il y a dedans et le manger. Mmh. Voilà, pardon pour les auditeurs.
Vous avez des choses qui vous dégoûtent?
Je pense que les insectes, j'aurais du mal à les consommer. Dès qu'il y a des pattes, des ailes. Mais ça fait partie d'une phobie que j'ai dans la vie, en fait, avec les insectes vivants. Tout ce qui vole et dont le moyen de transport, si je puis dire, n'est pas le vol initialement, c'est-à-dire les cafards volants, les sauterelles, les cigales, tout ça, ça, c'est impossible.
Au cours de votre vie, est-ce que vous avez l'impression que vos goûts ont beaucoup évolué ou que vous aimez toujours un peu la même chose et que ça s'est précisé?
Non, il y a une vraie fidélité à beaucoup de choses. D'abord parce que j'ai eu des enfants en plus, donc ça a été possible pour moi de rejouer, en tout cas une proposition à faire à mes enfants, des choses que j'avais pu aimer à leur âge, avec des trucs qui n'ont absolument pas marché. Par exemple, moi j'ai beaucoup aimé toujours les romans d'aventure ou de détectives ou les trucs policiers, ou donc les Arsène Lupin, Agatha Christie, tout ça, ou Jules Verne ou H.G. Wells, Conan Doyle. J'ai adoré ça, mais vraiment, dans la série, j'adore la fiction dans l'enfance, c'était très très fort. Ça s'est pas du tout passé. Mes enfants n'ont pas du tout lu ça, ça les a pas du tout intéressés. Qu'est-ce que j'ai aimé? La mythologie, j'aime toujours. Si tout à coup je rencontre quelqu'un qui aime aussi, alors là, il se passe, on peut plus nous arrêter. Le cinéma, ça n'a fait que croître. Puis j'ai rencontré quelques camarades, quelques interlocuteurs de choix qui m'ont permis d'alimenter tout ça avec des films que j'aurais pas nécessairement connus sans eux.
Justement, est-ce que vous trouvez que vos amis ont du goût ?
Oh ben oui, j'ai beaucoup d'amis qui ont du goût, oui. Oui, franchement. Ben, j'ai des amis quand même qui évoluent beaucoup dans le domaine de l'image, de la mode, du stylisme, de la création en général. Donc déjà, j'ai des amis dont le goût est au centre de la vie.
Leur travail, oui.
Voilà.
Oui.
Après, est-ce qu'ils ont bon goût ou pas ? Ils ont pas forcément le mien, ils ont certainement bon goût. Je sais pas trop ce que c'est le bon goût, je vous avoue, je fais partie des gens qui ne savent pas ça. Voilà.
Si je vous demande un homme ou une femme qui a du goût pour vous ?
Oh, il y en a énormément. Mais Charlotte Perriand, elle incarne un goût qui me touche énormément. Elle est cette femme-là, femme qui a connu le Japon très tôt, qui a été amie avec Noguchi. Enfin,
le Japon, c'est quelque chose qui est important pour vous ?
Oui, très, ouais. Très. Je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, réellement. Et puis c'est une société quand même très particulière, ou avec un patriarcat très fort, notamment dans les hautes couches de la société, en fait, hein, si j'ai bien compris, plus que dans les sociétés plus modestes, dans les milieux plus modestes. Mais il y a quelque chose de... L'excellence, c'est leur vie. Ils ne vivent que pour l'excellence. Et en fait, encore une fois, ça peut tendre à une forme de cruauté, mais c'est quelque chose qui m'émeut. Énormément.
Ouais. Et Charlotte Perriand, du coup, vous disiez, donc pour vous, c'est le goût, c'est cette femme qui a connu le Japon.
Oui, elle a fait ce voyage très tôt. C'est... Et puis bon, c'est une femme quand même qui a travaillé beaucoup avec Le Corbusier, avec Prouvé aussi, et dont on a tardé quand même à citer le nom. J'ai pensé à un moment donné me lancer dans un biopic sur elle. Puis bon, je crois que vraiment, je suis surtout actrice et que j'ai pas la patience de provoquer ce genre de choses. Mais puisqu'on parle de goût, c'est une femme qui pour moi est au centre d'une forme de goût. Oui,
ça serait quoi alors pour vous avoir du goût ? Vous parliez tout à l'heure justement de cette idée d'excellence, cette idée de c'est lié à ça pour vous.
Oui,
quand même.
Mais aussi c'est lié à l'élégance de pouvoir accueillir le goût des autres, hein, justement, et ne pas s'en moquer, ne pas pouvoir avoir un regard précis dessus aussi, pouvoir sourire.
Pouvoir accueillir le goût des autres.
Ouais, pouvoir accueillir le goût des autres, voilà.
C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé par Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin, et produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du Monde. Ce podcast est désormais un accès libre, je vous dis donc à la semaine prochaine pour aller à la rencontre de notre invité, de notre goût. Si vous souhaitez soutenir Le Monde et le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.